Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, le Canu Info du lundi 1er décembre 2014. 2014, on en voit le bout, avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex, pour aborder l'actualité internationale, nationale et locale. On va faire un petit saut en arrière à l'occasion des 70 ans, ce 1er décembre 2014 du 1er décembre 1944, où à Tiaroy, au Sénégal, près de Dakar, l'armée française qui avait rapatrié là un certain nombre de tirailleurs sénégalais après la guerre, certains des prisonniers de guerre. Ces gens-là, avant d'être démobilisés, réclamaient la solde qu'on leur avait promise, bien justement. Et l'armée française n'était pas du tout disposée à leur verser. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris d'autres militaires et on a tiré dans le tas. 35 morts officiellement, mais 300 disparus, donc faut peut-être multiplier par 10. Et puis, il y en a eu 34 qui ont été eu des années de prison jusqu'à 10 ans. Alors, bon, c'est une des marques de plus de comportement de l'armée française vis-à-vis des troupes africaines. Même en 1944, on pourrait parler de Sétif, de Madagascar. Tous les cas, ce massacre a forcément marqué la mémoire des Sénégalais. Et encore aujourd'hui, si les Français de souche blanc ne commémorent pas du tout l'événement, il est bien resté dans la mémoire des Africains qui demandent réhabilitation, mais là aussi, on attend et on n'est pas pressé. Voilà, alors ça, c'est un sujet très lointain en arrière. Les sujets d'aujourd'hui ne sont guère plus forcément plus gais en matière de massacre. On va peut-être commencer quand même sur un sujet optimiste, c'est peut-être pas le mot, mais c'est au Pérou, à Lima, donc ce sommet, comment il s'appelle celui-là, le sommet sur le changement climatique. Hein, pour 2 semaines, sont réunis à Lima 190 pays, je crois, et alors avec un projet de revoir le bilan de Kyoto et de prendre de nouvelles dispositions pour les années à venir dans la perspective de ne pas atteindre des 4 degrés de plus à la fin du 21e siècle sur la Terre. C'est mal barré, on pourrait à moins d'être béat d'optimiste, puisque Kyoto en 97... On avait décidé qu'en 2014, on allait voir ce qu'on allait voir et qu'avec toutes les dispositions prises, il n'y aurait 4% de diminution des gaz à effet de serre. Pas de pas, on a une augmentation de 34%. Alors, bon, les grandes décisions prises dans ces grandes messes, c'est très bien, mais en pratique, on voit que la réalité a beaucoup de mal à suivre. Alors, on va voir si à Lima, on fait mieux, quel protocole, quelle valeur, qui va payer les 100 milliards d'euros promis pour le fonds aux pays en développement pour pouvoir suivre cette démarche de diminution des gaz à effet de serre. Enfin, tout ça, c'est à suivre. Si on est béat et naïf, on peut penser que tout va bien aller. On surveillera quand même de près. Robert, tu voulais peut-être dire un mot sur ce sujet ou sur un autre ?
Ce qui est peut-être inquiétant, c'est que on veut laisser entendre que à Lima, on va pratiquement boucler le sujet pour l'année prochaine, pour le rendez-vous en décembre en France 2015, et que donc le rendez-vous de l'année prochaine ne serait plus qu'une sorte de réunion pour apposer sa signature avec force démonstration d'amitié et puis de confiance et d'optimisme. Alors, il faut espérer que cette version qui est présentée et sera démentie. Bon, déjà, il y a plusieurs interventions, notamment les gens d'attaque qui sont très présents. Ils sont pas seuls à être présents dans cette bataille sur le climat. mais ils mettent en garde tout triomphalisme qui serait en quelque sorte déjà co-signé à Lima, profitant de, bah, de ce qu'on est un peu dans un territoire qui lui-même tente de se trouver une issue écologique et environnementaliste. C'est tout ce réveil amérindien et qui lui va probablement faire comprendre aux Occidentaux que les réjouissances de l'année prochaine ne pourront se faire que si effectivement on prend en compte y compris la situation des pays les plus défavorisés, aussi bien en termes de climat qu'en termes de situation économique et sociale.
Mmh. Autre sujet, on l'aborde par l'actualité chaude et brûlante, peut-être les élections en Moldavie. Alors bien sûr, un petit pays coincé entre l'Ukraine à droite, la Roumanie à gauche, à l'est et à l'ouest, la mer Noire au sud. Il n'a pas une grande signification politique, sauf que c'est un peu le miroir de l'Ukraine avec la même problématique, un pays qui est divisé entre les aspirations d'une partie de sa population vers l'Union européenne et puis une autre vers la Russie. Et donc il y a eu des accords de signés en novembre 2013, il y a un an, donc avec l'Union européenne d'association, qui ont déjà engagé les choses. Et là, le résultat des élections, eh bien, la majorité, enfin c'est pas la majorité, mais le groupement de partis qui arrive en tête à 44% sont plutôt les pro-européens, les pro-russes arrivant à 40%. Donc c'est un peu comme l'Ukraine, une tentative de division avec la question de la Transnistrie qui loge la frontière ukrainienne tout le long, une région très pro-russe qui pourrait être assimilé au Donbass en Ukraine. On ne va peut-être pas aller vers les mêmes affrontements militaires qu'on a pu connaître en Russie, mais c'est une situation un peu similaire qui ne lasse pas de poser des questions.
Oui. D'ailleurs, les Russes ne s'en cachent pas. Ils ont bien retenu la leçon et tout ce qui peut faire qu'ils auront ce pseudo-isolement, mais l'isolement, il est surtout vis-à-vis de l'Europe, de l'Union et les États-Unis, parce que du côté, quand on bascule vers le sud et l'est, on n'est plus dans une situation d'isolement pour Poutine. Et donc les Russes, eh bien, ils vont chercher, ils l'ont annoncé, à renforcer les liens économiques à travers une structure qu'ils avaient mis en place après la chute de l'Union soviétique, qui s'appelle la communauté des États indépendants, hein, qui se voulait petit rassemblement de pays qui, sur le plan économique, veulent conserver des liens et surtout pouvoir accéder aux matières premières qui sont pour l'essentiel en Russie et tout autour de la mer Noire. Et d'ailleurs, cette volonté des Russes d'inviter tous ces petits États ou mini-États à se rassembler avec eux, et ben ça s'est concrétisé par une signature avec les gens de l'Abkhazie. Et bon, on sait que l'Abkhazie, ça faisait partie de la Géorgie, mais ils se sont autonomisés. Alors bien sûr, on a dit, ça c'est les Russes qui étant intervenus militairement en Géorgie, avaient produit cette situation, ce qui c'est pas complètement faux, l'intervention russe a bien eu lieu, mais simplement, là il y a encore une majorité de gens, un peu comme en Moldavie, qui pensent que si l'Europe c'est peut-être bien, mais peut-être que faut être plus pragmatique. avant de rêver du paradis européen, il faut peut-être d'abord assurer les bases immédiates. Et les bases immédiates, eh bien, c'est la possibilité tous les jours, surtout l'hiver arrive, d'avoir du chauffage et d'avoir de quoi manger.
Voilà, un autre sujet que tu souhaitais aborder ou...
Toujours sur ce thème, comme on l'évoque souvent, la situation. En fait, il n'y a pas de véritable information nouvelle concernant l'est de l'Ukraine et plus globalement l'Ukraine, mais simplement, on voit comment ce profil. Le débat sur l'Ukraine à l'OTAN. Alors, on voit qu'à Kiev, le président dit pratiquement non. Le gouvernement, lui, il dirait plutôt oui. Tout ça, on sent bien que c'est combiné entre eux. Mais par contre, effectivement, on sait déjà. J'ai pas l'impression que, comme d'habitude, la France ait pris une position claire là-dessus. Mais on sait que l'Allemagne, par exemple, elle reste pour l'instant hostile à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Bon, pour une fois qu'on peut se féliciter de l'activité internationale et géopolitique de l'Allemagne, mais on sait pourquoi. On sait pourquoi l'Allemagne a des intérêts à défendre dans ses relations avec la Russie.
La Russie, pour qui les choses ne vont pas très bien, j'entendais ce soir que le rouble a perdu 9% en une journée. Et ça fait 25% en quelques semaines à peine. Donc ça fait bouger pas mal de choses. Sans doute les effets des sanctions, ouais, à l'égard de la Russie, mais aussi le prix du pétrole qui rentre en jeu. Donc un jeu, semble-t-il, c'est d'évaluation à somme nulle pour le pouvoir russe, mais pas du tout pour la population qui, dans un tel contexte, voit l'inflation galoper. À suivre, donc. Si on revient sur le front de la Syrie, Turquie, Irak, donc Kobané continue d'attirer l'attention du monde entier avec ce village qui est défendu, on peut dire, par les Kurdes et attaqué par Daesh, avec des choses qui se passent un peu bizarrement, puisque il y a déjà 3 fronts sur les 3 points cardinaux et le quatrième, le nord. Il semble que Daesh cherche à ouvrir aussi un front, chose qui lui est facilitée, c'est là où on pourrait être un peu étonné à premier abord, par l'armée turque qui ne fait rien, qui au contraire facilite le passage de Daesh en direction de Kobané. Alors, on peut se poser beaucoup de questions sur la politique des Turcs et leur jeu dans tout ça. Quel intérêt ont-ils à laisser Daesh avancer ? On sait que leur ennemi, bien sûr, c'est Bachar, mais quand même, quoi, ça pose un petit peu question. Les Kurdes, quant à eux, payent très cher la défense et se mobilisent très fort. Bon, il y a un beau reportage là, d'un journaliste de l'UMA, pour l'UMA, qui a eu le courage d'aller jusque dans le village de Kobané, guidé par des combattants. C'est assez impressionnant à lire. Et puis, pendant ce temps-là, il y a toujours ces attaques qui sont menées aussi par les Occidentaux. Et Daesh aurait subi une cinquantaine de ces militaires tués par à la fois les Occidentaux et puis les combats dans lesquels ils se trouvent. Mais il y a aussi des pertes du côté kurde, bien sûr.
On ajoutera cette interrogation autour du comportement d'Erdogan et de la Turquie, le fait que le pape, qui a passé 3 jours là-bas en Turquie, eh bien, a tenté, nous dit-on, d'amener Erdogan à avoir une position plus claire sur la lutte contre le terrorisme. Bon, on voit ce que ça recouvre, hein, donc toute la bataille contre Daesh notamment. Et parce que le pape a dit, en tant que représentant des chrétiens, d'une partie de la chrétienté dans cette région, je crois qu'il convient effectivement de tout faire pour qu'il ne soit pas soit exilé, soit même converti de force ou tué tout simplement. Bon, mais là on ne sait pas trop si le pape avait la possibilité de peser dans cette situation dans la région.
Non, sûrement pas. Bon, il a surtout été défendre les intérêts et les positions des chrétiens, mais c'est pas sûr non plus qu'il soit très entendu. À part le pape, eh ben, au Nigeria, parce qu'on était dans les islamistes, restons-y, il semble que Boko Haram redouble d'activité. Bon, le vendredi dernier, c'était une attaque suicide dans une mosquée, trois attentats qui ont fait 120 morts, 300 blessés. Et c'est pratiquement quotidiennement qu'il y a des choses qui se passent. La ville de Damaturu aujourd'hui a été attaquée. Et il semblerait, c'est même sûr, que le pouvoir nigérien se désintéresse, c'est peut-être pas le mot, mais presque se désintéresse quelque peu de la question. En tous les cas, n'a pas la volonté d'envoyer des militaires pour venir à bout de cette rébellion qui a en 5 ans a quand même fait 13 000 morts et 1,5 million de déplacés. On a l'impression que cette zone au nord du pays est un peu abandonnée à ceux qui y sont, et y compris aux groupes extrémistes qui viennent faire la loi là au milieu, et la loi est avec beaucoup de morts à la clé, quoi. En France, on avait proposé en mai un sommet pour organiser une action. Les effets, pour le moment, ne se font pas sentir. Voilà, Robert, autre sujet ou là-dessus, je ne sais pas.
Non, sur l'Afrique, peut-être revenir, même si on peut penser que ça concerne la discussion qu'on peut avoir et la critique qu'on a naturellement sur la France-Afrique, mais on sait quand même que le discours de Hollande à Dakar, dans le cadre de la francophonie, qui est donc un mouvement international, alors je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser, mais pourquoi pas. La francophonie, 57 membres et 20 observateurs. Bon, la photo de famille est toujours déplaisante parce que on voit ce blanc au milieu des noirs. Enfin, il y a d'autres blancs maintenant, puisque on peut y voir aussi bien des Suisses, des Belges et puis des Canadiens, Québécois par exemple. Mais il n'empêche que c'est quand même une image assez bizarre.
Donc tu voulais qu'on parle un peu de ce sommet de la francophonie, donc, qui a vu quand même une grande évolution, puisque pour la première fois, c'est une femme qui est nommée à la tête de la francophonie, Michaëlle Jeanne, ex-UNESCO, ex-gouverneur général du Canada, ex-journaliste, canado-haïtienne, un temps française, et puis qu'il a abandonné pour retourner au Canada. Elle succède donc à Abdou Diouf dans cette activité qui est un peu honorifique, mais en même temps, je pense, assez importante pour la France, même pas assez valorisée, à mon sens, pour permettre la culture française, au-delà de la langue même, d'être porté à la connaissance de beaucoup de monde.
Hollande en a profité pour dire, à contrario, par rapport à ce fameux discours insupportable et de Sarkozy à Dakar, il a dit, lui, que pour lui, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir considérer que l'Afrique est bien en place dans l'histoire. C'était effectivement, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas beaucoup ce que ça veut dire, ce genre d'échange. Enfin, on peut l'interpréter en disant que, par exemple, ce qu'on a fait par rapport à ce que disait Sarkozy, c'était vouloir réduire les hommes d'Afrique. Oui, Hollande veut restaurer leur dignité. Eh bien, on va voir si avec les multinationales françaises et autres, leur dignité sera restaurée, rétablie, amplifiée.
Oui, puis les propos de Sarkozy étaient passablement insultants, parce que quand ils sont devenus esclaves aux États-Unis, ils étaient bien entrés dans l'histoire et par quelle porte, quoi. Mais ça, c'est pas ça qui l'intéressait, Sarkozy. On dira un mot de, pour aller en Asie, de Hong Kong et la contestation qui reprend avec des affrontements avec les policiers. Il y a une contestation toujours anti-chinoise qui se répand vers Taïwan maintenant, qui aussi a des manifestations contre l'influence de la Chine dans le pays. Voilà, on parle quelques nouvelles européennes peut-être avec l'Angleterre, Cameron qui sans doute un petit peu le péniste lui dans son genre veut essayer de se faire réélire l'année prochaine en proposant des mesures qui vont à l'encontre des règles vis-à-vis des étrangers, même quand ce sont seulement des ressortissants de l'Union européenne. Il voudrait venir à bout de Schengen et il propose des mesures comme 4 ans de travail dans le pays pour les étrangers avant de pouvoir bénéficier de la moindre prestation ou du moindre droit social. C'est assez aberrant. Ça supposerait, si l'Angleterre reste dans l'Union européenne, de modifier certaines règles qui président à l'Union européenne. On n'imagine pas trop. Est-ce que c'est uniquement du bluff électoral ou est-ce que c'est un moyen qu'il a trouvé là pour engager une sortie de l'Union européenne? On peut se poser la question. Tout le monde ne le regretterait pas, mais enfin, on n'en est pas encore là, quoi. Puis on dira un mot de la grève en Belgique aussi, où il y a une grève générale contre les mesures d'austérité, hein, et donc pas de transport pratiquement aujourd'hui dans le pays, en Belgique. Les Suisses font parler d'eux, pas beaucoup, mais c'est toujours intéressant de pas laisser passer des informations comme ça. Ils ont fait une votation, ils en font tout le temps, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Et il s'agissait de savoir si on supprimait les forfaits fiscaux. Il y a quand même 5 634 millionnaires en Suisse, millionnaires en euros ou en francs suisses, je ne sais pas, dont 2 000 Français, qui bénéficient d'un forfait fiscal, c'est-à-dire d'une imposition extrêmement basse. Et certains partis de gauche avaient mis la pression pour demander un référendum pour remettre en cause ce forfait fiscal. Eh bien, figurez-vous que 59% des Suisses, c'est quand même beaucoup plus que les 5 634 milliardaires, mais estiment qu'il ne faut pas supprimer le forfait fiscal, et donc il est conservé. Donc, bonne journée pour un certain nombre de millionnaires français qu'on connaît bien, dans le showbiz, le sport et ailleurs. Hein, ce qui faisait dire aux spectateurs de la finale de la Coupe Davis que de toute façon c'était Suisse contre Suisse puisqu'il n'y avait que des exilés fiscaux là-bas. Ils votaient sur un deuxième truc, les Suisses, l'éco-pop, ils appellent ça. C'est encore une mesure, ça. Il s'agissait de limiter la population, l'augmentation de population, essentiellement par le refus de nationalisation des immigrés, quoi. Alors, c'était proposé par l'extrême droite, bien sûr, et des écologistes radicaux, sans doute proches de l'extrême droite. Donc, cette mesure-là n'est pas passée. Le gouvernement, dans les deux cas, est ravi. Autre information, un tant soit peu internationale, ah ben, il y a la journée du sida, quand même. Oui, faut qu'on... Enfin, on peut en parler pour la France, mais on peut en parler pour le monde entier, parce que c'est pas en France qu'il y a le plus de séropositifs, c'est en Afrique du Sud, 6 millions de gens vivent avec le virus. On se souvient qu'il y a eu un temps où c'était une catastrophique, une négation complète du problème, et depuis l'élection de Zuma en 2009, il a décidé de traiter la question autrement et d'essayer de rattraper le retard en procédant par exemple en 2011 à un dépistage massif, en mettant en place de la prévention et en mettant aussi à la disposition des gens des trithérapies, les traitements. électrothérapie qui sont un peu au centre de la journée de lutte contre le sida aujourd'hui même, ce 1er décembre. L'objectif étant d'essayer d'alléger ces polythérapies, ils appellent ça, qui ont pas mal d'effets indésirables, même si elles sont efficaces et permettent aux gens de vivre une vie normale avec une fin de vie qui n'est pas annoncée à des termes assez brefs. On peut vivre normalement. Simplement, on cherche des moyens d'améliorer ces trithérapies pour qu'elles soient moins lourdes et avec des médicaments à effet moindre en matière secondaire. Et puis, il y a aussi, du côté de la prévention aussi, un espoir avec des médicaments qui seraient efficaces en matière de prévention pour les gens qui ont des conduites qu'on peut estimer ou qu'ils estiment à risque, mais qu'ils ne souhaitent pas abandonner. Voilà, on fait une pause musicale.
Oui, je crois que le moment est venu.
On a une rubrique nationale qui est bien chargée aussi. Alors, on va la faire avec Remo Gary, Le Petit Matin.
À l'heure où, juste avant l'aurore, l'araignée de nuit tisse encore la toile noire de son drapeau. Voilà que passe l'inventaire de la galerie de la terre. La rue s'est réveillée très tôt. On a espéré le grand soir. Bonsoir à nous d'inventer le petit matin. Mutin, pas chagrin du tout. Notre révolution boutonne et ceux qui viennent de Lisbonne ont des œillets aux boutonnières. Y'a les primes vertes de Prague, notre terrain d'entente est vague, des poincères des roses trémières. On a espéré le grand soir. Bonsoir à nous d'inventer le petit matin. Mutin, pas chagrin du tout. Y a pas de soldats, pas de troupes. Y a des têtes de rois qu'on coupe sans aucune méchanceté. Y a plein d'intifadas faciles, des cailloux contre des fossiles, des lois par-dessus le marché. On a espéré le grand soir. Bonsoir à nous d'inventer le petit matin. Mutin, pas chagrin du tout. Les souvenirs de vieux stratèges viennent hanter notre cortège. Y'a Proudhon, Jaurès et Babeuf. Et c'est avec ces références que l'on fera de préférence 1780 tout neuf. Nous sommes humains de toutes sortes. On casse des murs et des portes. Y'a pas de mots d'ordre. Les cris, les slogans, c'est des pièces uniques. Ça n'empêche qu'on revendique tout ce que l'autre aura aussi. On a espéré le grand soir. Bonsoir à nous d'inventer le petit matin. Mutin, pas chagrin du tout. Sous les pavés c'est formidable. Il y a de nouveau du sable dont on ne fait pas les châteaux. Comme tout se démocratise, on chante le temps des merises qui suffirait sur nos gâteaux. On a espéré le grand soir. Bonsoir à nous d'inventer le petit matin. Mutin, pas chagrin du tout. On a espéré le grand soir. Bonsoir à nous d'inventer le petit matin. Mutin, pas chagrin du tout. Dans la rue, ça y est, c'est grand jour. Bonjour.
Le Petit Matin, revu et corrigé par Remo Gary. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info du 1er décembre 2014 avec une rubrique nationale ouverte par Robert. À toi.
Demain, c'est un grand jour. Ça devrait, ça pourrait être, mais ça ne sera pas un grand jour pour les Palestiniens, même si symboliquement, le geste va avoir un sens, parce qu'il semble acquis qu'une majorité de députés voteront la motion préparée avec beaucoup de soin par les socialistes, document qui proposera la reconnaissance d'un État palestinien. On sait que les Britanniques, les Suédois et puis les Espagnols l'ont déjà fait. Ils n'ont pas pris des gants, des précautions pour le faire, mais bon, la France qui comporte effectivement ça, en Europe la branche la plus activiste du sionisme, eh bien naturellement les socialistes qui baignent là-dedans aussi, eh bien, ils sont comme on dit, ils sont très prudents, ils veulent pas faire perdre encore plus de voix à François Hollande. Donc un vote qui aura simplement la manifestation du désir, mais dont le gouvernement fera ce que bon lui semble, puisque Fabius est donc sur les ordres de ses supérieurs, Valls et Hollande, a déclaré que il voyait bien, lui, deux ans pour arriver un accord européen et au-delà, un accord général de reconnaissance de l'État d'Israël. Effectivement, bon, c'est le gouvernement essaye de freine des quatre fers pour que ce vote ne soit qu'un vote symbolique.
Voilà, Rassemblée nationale, est-ce qu'on avait d'autres informations? Oui, sur... c'est la même. Donc c'est tout ce que j'avais. La conférence environnementale qui s'est terminée la fin de semaine, là, avec des grands mots, le climat, grande cause nationale 2015, ça coûte rien, hein, c'est un... Et Valls qui se réveille et qui découvre que d'avoir poussé le diesel en France pendant 30 ans, c'était une erreur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? On veut, avec les Cotax, aider l'Alsace-Lorraine, puisqu'il n'y a qu'eux qui sont prêts à la mettre en place. Donc, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Mais... Et puis, pour Valls aussi, vous apprécierez, le nucléaire est un atout maître pour la France. Eh bien, avec ça, elle est bien barrée, notre conférence gouvernementale. Voilà, autre sujet ouvert, on parle... il y a Center Park qui est important. Enfin, on va parler des manifs à Lyon aussi, bien sûr, mais il y a une nouvelle ZAD qui s'ouvre, un nouveau front à Rouen. Donc on est en Rhône-Alpes, hein, même sans être en Rhône-Alpes élargie jusqu'à l'Auvergne, dans la forêt de Chambardon. C'est Reuidon, c'est un patelin qui se trouve entre Vorep à l'est, Bourg-Père à gauche, Romans au sud. On est en plein donc dans la nature et dans le plateau du Vercors. Et dans, autour de, pas loin de ces villages, Pierre et Vacances, autrement dit en clair des banquiers, ont décidé de faire ce qu'ils appellent un center park pour amuser les touristes. Et 1000 résidences et cottages autour d'une bulle, comme c'est beau, une bulle centrale avec plein d'équipements. Bref, il faut abattre des arbres sur 30 hectares. Et hier, il y avait manifestation. Il y a déjà un petit moment que les gens protestaient contre, en plus des non-respects des zones qui étaient censées être attribuées pour être nettoyées de leur végétation, entre guillemets. Donc il y a un recours en référé qui est court, et donc une manifestation, et à la fin de cette manifestation, un millier de personnes, une partie des gens qui décident de s'installer dans une résidence, un bâtiment de l'ONF abandonné, qui du coup se retrouve baptisé Maquisade, et qui va donc devenir un lieu permanent de contestation. Alors que les amateurs ne se découragent pas, parce que dans la Saône-et-Loire, toujours en Rhône-Alpes maintenant, Bien sûr, il va y avoir aussi un autre Center Park bientôt, dans le Charolais, cette fois, avec 400 gîtes, dans un coin qui s'appelle Le Rousset, c'est donc en Saône-et-Loire, dans la zone du Charolais. Allez, Robert, je te donne la parole.
Sur le plan politique-politicien, eh bien, ça s'agite un peu partout. On n'évoquera pas Sarkozy et Marine Le Pen. Je crois que les médias l'ont tellement fait. On ne pouvait pas passer à côté des circonvolutions de ces deux personnages de la droite et de l'extrême droite. Par contre, plus globalement, on s'agite beaucoup. Alors ça, c'est l'ensemble du monde politique sur les cantonales de l'année prochaine. Faut rappeler que c'est pas aujourd'hui, c'est simplement au mois de mars. Donc on est à 4 mois, mais déjà l'ensemble des partis, aussi bien à droite qu'à gauche, veulent boucler déjà leur candidature avant les fêtes de fin d'année de cette année. C'est un classique du genre aussi. On veut que le 15 décembre tout s'arrête et que la politique redémarre le 15 janvier. Et évidemment, ça n'est pas facile parce que les conditions mises dans la nouvelle loi, cette fameuse loi qui fait des cantonales des élections départementales, ça change rien, mais avec un redécoupage. Hein, bon, il y a beaucoup de choses avec les binômes mixtes, tout ça, avec des contrôles financiers renforcés. Donc, quelque chose qui est fait pour les partis, les grands partis, et donc les petits partis, ben, effectivement, ils se plaignent beaucoup. Voilà, alors, on n'en dira pas plus ce soir, simplement, c'est que, par exemple, pour ce qui est du front de gauche, qui nous intéresse un peu plus peut-être que la droite, eh bien, il y a la recherche d'attirer dans ses filets, c'est pas péjoratif, d'attirer dans ses filets les Verts, enfin du moins une partie des Verts, et puis des morceaux du PS, notamment la gauche du PS. Alors, la gauche du PS, il y a 3 ou 4 courants, donc lequel courant est attrapable, on ne sait pas trop. Mais enfin, voilà, bon, on plaisante un peu là-dessus, parce que bon, faut oublier quand même que la vie politique, ça fait partie, c'est du contournement des objectifs qui pourraient être une vraie révolution. Bon, ben, c'est comme ça, hein, les élections, ça a été créé sur un système qui donne plutôt la faveur au monde bourgeois. Si on reprend le processus des analyses de classe, eh bien, c'est comme ça. C'est nécessaire d'y participer. En général, bon, des gens pensent qu'il ne faut pas y participer. Mais c'est quelque chose qui va occuper pas mal les médias dans les prochaines semaines et surtout dans les prochains mois, à partir de la mi-janvier.
Mmh. À propos des aides, j'ai oublié de vous dire aussi que Sivens, Bruxelles, a engagé une procédure pour infraction par rapport aux directives sur l'eau. Donc voilà, qui amène de l'eau au moulin. Mmh. C'était facile celle-là, des zadistes de Sivens aussi dans leur lutte. On parle de cette manifestation de samedi. Alors les flics gardaient bien consciencieusement les délibérations du Front National. Par contre, ils gardaient très brutalement les manifestants anti-Front National, puisque la manif a eu lieu avec quelques 4000 personnes. Elle a été mouvementée, même si sans doute, aux yeux de la police, ils estiment qu'ils ont su contenir des débordements. On peut toujours se demander aussi si des fois la police n'est pas, ou certains gens mandatés par la police n'est pas à l'origine de certains débordements pour justifier des interventions brutales, on va dire. C'est une manif qui partait de Jean Massé pour venir au terreau en passant par le pont de la Guille, donc avenue Jean Jaurès. Il y a eu une manœuvre de coupure en deux de la manif au niveau du pont de la Guillotière. Il y a eu une petite période de prison à ciel ouvert. Ils aiment bien ça, les flics à Lyon. Ils nous l'ont rejoué, là, un petit peu, mais elle n'a pas été très longue, semble-t-il. Il y a eu quelques interpellations, donc des gens, ce qui passait aujourd'hui comment ils appellent ça, enfin, jugement immédiat.
Comparution directe.
Comparution directe, deux, je crois.
Ah oui.
Et une quinzaine. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre encore? Oui, il y a eu aussi beaucoup de bus qui ont été arrêtés, on a pu lire ça sur les infos parallèles. Des bus en provenance de Suisse, d'Italie, de Belgique ou d'autres régions de France qui venaient manifester. Et bien sûr, les flics les arrêtent à l'entrée de Lyon et les bloquent et le temps de la manif, comme ça, ils ne peuvent pas y participer. Une partie de la manif a pu arriver jusqu'au terreau et se disperser normalement, on va dire. Et puis, il y a eu quelques affrontements avec de la casse sur des boutiques qui représentent largement les institutions financières qui nous gouvernent. Quoi. Voilà, tu voulais donner d'autres informations, Robert ?
Oui, au plan social, on a déjà évoqué. Alors, on pourrait ironiser sur la manif des PME, petites et moyennes entreprises, PME, PMI, dans la rue, aujourd'hui, reprochant toujours la même chose, trop d'impôts, trop de paperasserie, discours qu'on connaît depuis longtemps, et alors que Hollande fait des pieds et des mains pour dire on vous ouvre les portes du crédit. Alors évidemment, c'est moins évident quand on est PME que quand on est une entreprise du CAC 40, mais néanmoins, il y a une réelle mise à disposition des patrons d'argent, et puis on supprime des papiers, on va encore en supprimer d'autres. Bon, il y a déjà, c'est par dizaines que la promesse a été faite qu'on supprimerait la paperasserie. Bon, mais donc ça n'empêche pas ces petits gens. Pour eux aussi, c'était une manière. C'est bien que même s'ils ont globalement un intérêt commun, les patrons des PME ou des TPME, même des très petites entreprises, voire même des artisans, s'il y a des intérêts communs comme ça, objectifs, ou plutôt subjectifs, on va dire, avec les grandes entreprises multinationales, on sait que dans la réalité, c'est les grosses qui servent à utiliser les plus petites, et qu'en fait, il y a la connivence s'arrête là. Donc, dès dans la rue, Hollande doit être triste de voir que finalement son discours n'a pas servi, et c'est les décisions qu'il prend et que prend encore son homme d'année, il s'appelle le ministre Macron, qui prépare, alors là aussi il y a une loi que Macron prépare et qui voudrait mettre sur le bureau du Conseil des ministres à l'échéance du 15 décembre, et qui va continuer à démanteler le Code du travail, alors en s'attaquant aussi bien aux représentativités syndicales dans les entreprises, à la médecine du travail, et puis même à la structure des prud'hommes. D'ailleurs, curieusement, les patrons ne sont pas forcément d'accord avec ce que propose le gouvernement, ce qui est effectivement original sur cette question des prud'hommes. Voilà donc une fin début de décembre où effectivement il y aura sans doute de quoi s'opposer pour les syndicats, même si les syndicats sont très très affaiblis, et notamment sans dire plus, mais notamment à la CGT, où on voit que la polémique interne externe continue sur tout l'argent qui a été consacré à l'aménagement du lieu de travail et de vie de Le Paon, le secrétaire national.
On se demande ce qu'il attend pour démissionner, lui.
On dit, mais là, bon, peut-être certains prennent leur désir pour des réalités, qu'il y a un vent de fronde qui pourrait conduire ou à démissionner ou à être démissionné. Mais visiblement, je ne crois pas que ce soit encore le cas de figure. Dans les semaines qui viennent.
Tu vas voir que ça va venir plus vite que prévu. Là, le canard y a encore mis un coup sur le bec. Là, 62 000 euros pour rénover son bureau. Après son appart, ça va vraiment faire beaucoup. Je pense que les militants vont le prendre par la peau des fesses puis le sortir du bureau. Je voudrais remonter le moral des petits patrons quand même, parce que d'abord, si on construit des center parks, c'est pour eux, c'est là qu'on les retrouve. Et puis quand on verra plus de petits patrons au Resto du Cœur que de leurs anciens ouvriers, eh ben, on pourra se poser effectivement des questions. Et puis, il ne faut pas qu'ils désespèrent, parce que s'ils grandissent, ils peuvent faire comme Total. Total, cette année, a fait 4,7 milliards d'euros de résultats. Hein, et en hausse de 16%. EDF, 3,1 milliards d'euros de résultats. Et on veut nous augmenter le kilowatt, ça pourrait être qu'ils n'y arrivent plus. En hausse de 8%. Je continue. GDF, 2,63 milliards de résultats, en hausse de 51%. Et là aussi, on veut augmenter le gaz aux chômeurs et aux retraités. AXA, 3 milliards, plus 21%. La tempête va peut-être leur donner l'occasion de s'en servir de ces 3 milliards, à moins qu'ils augmentent les cotisations. Enfin, comme vous voyez, les patrons pleurent, mais on se demande vraiment sur quoi ils pleurent. Ils pourraient pleurer sur leurs résultats qui, effectivement, sont à pleurer. Quoi d'autre, Robert? Des bonnes nouvelles de l'industrie. Tiens, ATR. ATR, c'est une filiale d'avions, pas très connue du grand public, mais qui fait des avions moyen courrier. À hélice, c'est marrant ça. On croyait que c'était fini, mais pas du tout. Ils viennent d'avoir une commande de 100 avions pour les Indiens. 2 milliards d'euros. C'est une filiale à la fois italienne et française, Airbus, hein, qui est derrière. Donc il y a de l'avenir pour les avions à hélice qui consomment moins que les avions à réaction. Peut-être qu'il y a une visée écologique à jouer. D'ailleurs, ils envisagent de développer un avion plus grand. Les clauses de cession à Libé aussi pour une centaine de salariés qui préfèrent s'en aller avec une indemnité. Alors, il paraît que la direction est dépitée parce qu'elle en voulait 67 et il y en a 81 qui s'en vont, quoi. Trop de départs pour eux. Et ceux qui restent, ben, ils ont des nouveaux contrats de travail où ils ont réussi à améliorer un peu les choses. Plus de polyvalence des journalistes est exigée. Pas de rémunération en fonction des résultats. Enfin, il y a quelques petites améliorations comme ça qui ont pu être apportées. Voilà, il y a Dassault aussi, tiens, encore un petit patron qui fait pitié. Il aurait versé 60 millions d'euros que lui ont coûté ses électeurs pour les arroser au fin de le réélire comme maire de sa commune de Corbeil. 60 millions d'euros, il y en a du pognon chez les patrons, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire, hein? Voilà, tu avais d'autres infos, Robert, ou on termine ce journal
Simplement, peut-être, mais je suis sûr que tu as été attiré par l'annonce de la sortie du livre CD fait par Philippe Torreton et... comment il s'appelle, Édouard Perrault, sur lecture des textes et mise en scène des textes d'Alain Leprest. Ça sort, je crois, donc en forme de livre CD. Je pense que tu as dû voir ça.
Oui. Torreton, c'est une bête de scène, hein. Il fait tout,
incombé
par Dieu, alors bon, pourquoi pas, hein. Moi, Leprest, je préfère quand il les chante, ses chansons, à tout prendre. Enfin, je ne l'ai pas vu le spectacle. Non.
Bah, si, bon, si, mais vraiment, Leprest, bon, de manière qu'il soit vraiment présent, ben c'est bien. Enfin, c'est savoir et écouter.
Oui, c'est un grand acteur, hein, c'est indéniable. Voilà, écoutez, ce Canu Info sera rediffusé. Voilà. Demain matin à 8h, vous devriez pouvoir le retrouver sur Internet dès ce soir, mais un petit peu plus tard. Et puis, ben, demain soir, un autre Canu Info avec l'équipe du mardi, et ainsi de suite, toute la semaine. Ah oui, ben, le programme des festivités, vous le connaissez comme moi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. C'est les fêtes de la lumière, ils disent, ou des lumières, fêtes du 8 décembre à Lyon, avec un immense cirque et plein de choses à voir, si vous ne craignez pas la cohue. Voilà, on se quitte avec Raymond Gary et bonsoir.
C'est l'âge de la cabosse sur le chemin des bosses sur le chemin, tiens-lui la main. Le temps te métamorphose, fait gonfler tes ecchymoses, sans être tombé, sans rien. Lassé des ballons qui poussent des rondeurs, des pamplemousses, l'arnica n'y pourra rien. 12 ans la fée carabosse, sur le chemin des bosses sur le chemin, tiens-lui la main. Comme au tableau de l'enfance, sans doute que l'existence te réserve quelques coups. C'est des bosses indicibles, poussant dedans, invisibles, écrites sens dessus, dessous. S'effaçant d'un coup de brosse, sur le chemin des bosses sur le chemin, tiens-lui la main. Enfin, c'est pas un mystère, tu finiras dans la terre, sous l'épiderme d'un champ. Petit bouton ridicule, petit pâté monticule, ça presse pas, y a le temps de prendre le coup de crosse. Bonne chance, bonne route, tes blessures font des croûtes. Et peut-être qu'à ton tour, tu prendras la cloque quand te viendra le dos devant d'une piqûre d'amour, d'une piqûre de gosse sur le chemin des bosses sur le chemin. Tiens-lui la main.